voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service. Quel est l'impact du changement climatique sur les activités agro-pastorales en RDC? Nous en parlons avec le professeur Jean-Claude Bouanganga. Il est député national élu de Bandundouville. Professeur, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour, je suis Fatima Mapuko et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Merci de l'invitation.
Je vous en prie, si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-736-941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Vos commentaires, questions et suggestions sont les bienvenus par les mêmes numéros. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires dans le courriel sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapuku, c'est moi qui anime et coordonne cette émission. Jody Kachama a remplacé Julie Bongonda à la réalisation et Jean-Noël Mokondo s'occupe de la prise de son. Toute équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous signalons que Jean-Noël Mokondo a été remplacé par Billy Landry. Quel est l'impact du changement climatique sur les activités agro-pastorales en RDC? C'est de ce thème que nous sommes en train d'aborder dans cette deuxième partie de notre magazine Okapi Service avec le professeur Jean-Claude Bouanganga. Et nous rappelons qu'il est député national, élu de Bandundouville, ingénieur agronome chevronné. Il est spécialiste dans les industries des aliments. Le changement climatique a des impacts significatifs sur les activités agro-pastorales qui sont importantes pour la majorité de la population qui vit en milieu rural, de la RDC selon les spécialistes. La rareté et l'abondance des pluies affectent la fertilité des terres arables, réduisant ainsi les rendements des cultures sur l'ensemble du territoire national. Quel est l'impact climatique sur les activités agricoles? Que faut-il faire pour adapter cette réalité lorsqu'on est fermier et agriculteur? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Professeur Jean-Claude, est-ce que réellement le changement climatique a des incidences sur les activités agro-pastorales en RDC?
Oui, encore une fois, merci de l'invitation. Je crois que en disant ce que vous avez dit, vous avez tout dit. Mmh. En effet, notre agriculture et notre élevage ne sont déjà pas résilients. Et donc, les défis majeurs que pose le changement climatique fragilisent encore davantage ces deux secteurs et on dépend tellement de ces deux secteurs que s'il n'y a pas de solution, la pauvreté ne peut qu'être au rendez-vous. Donc, en République démocratique du Congo, c'est pas un cas particulier, mais il y a possibilité de rendre notre système de production plus résilient parce que nous avons beaucoup d'atouts pour nous permettre de sortir de cette situation que nous impose le changement climatique. Comme vous le savez, nous avons beaucoup d'eau, nous avons des forêts et ça peut être utilisé comme une force pour notre agriculture en cette période où la population est de plus en plus croissante et où les aliments se font de plus en plus rares. Alors, en ce qui concerne les deux questions que vous posez d'entrée de jeu, ce que je voudrais dire, c'est que le changement climatique, qu'est-ce que ça nous amène d'abord? Ça nous amène des changements dans le régime de précipitation. Donc, les changements dans le régime de précipitation, ça nous amène des températures de plus en plus élevées ça va affecter.
Quand vous faites allusion aux précipitations, au changement de régime, c'est-à-dire les saisons sèches peuvent s'étaler, être un peu plus longues que les saisons des pluies et inversement.
Exactement. Ça veut dire qu'au niveau, le niveau, c'est d'abord le niveau global. Pourquoi on parle de ces changements? Au fait, moi, j'aime bien qu'on parle du réchauffement de la planète. Donc, notre planète Terre se réchauffe. Et donc, en se réchauffant, ça impacte tout ce qu'il y a sur Terre. Donc, les eaux des océans, les régimes de pluie, etc. Donc, pour le cas qui concerne l'agriculture, on va mettre un accent sur, d'abord, les régimes de précipitations. Mmh. Vous voyez, par exemple, maintenant, on va lancer la campagne agricole.
La grande campagne agricole.
Mais parfois, les agriculteurs ne savent pas à quel moment il va pleuvoir. Parce que vous savez que notre agriculture, c'est une agriculture qui dépend de
pluviale, oui.
Donc, vous n'avez pas de système d'irrigation très avancé, surtout dans nos milieux ruraux. Mmh. Donc, nos agriculteurs qui sont dans nos milieux ici, et ça je vous le dis parce que j'ai moi-même vécu depuis que je suis rentré d'Europe, depuis 2014, dans un milieu rural à Missaï. Mmh. Et donc, nous voyons très bien que les agriculteurs ont du mal à savoir à quel moment ils doivent semer. Parce qu'il y a des perturbations dans les régimes de précipitations. Et puis, les températures sont de plus en plus élevées. Et comme quand il va commencer à pleuvoir, il pleut beaucoup, ça va avoir un effet sur la fertilité des sols. Il y a des érosions et la dégradation des sols. Et comme nos sols sont déjà des sols à tendance acide, nous allons encore accentuer l'acidification de nos sols et ça va appauvrir davantage nos sols. Et tout ça, ça va avoir un effet sur la production. Aussi, comme vous allez le remarquer, si vous allez dans nos villages, par exemple, il y a beaucoup.
Il y a des micro-coupures dans la communication, professeur. Est-ce que vous êtes dans un local?
Il y a des espèces. Pardon?
Il y a des petites coupures hein, dans la communication. Est-ce que vous êtes dans un local ou vous êtes à l'extérieur?
Je suis dans mon bureau.
Ben, le mieux serait de pencher le téléphone du côté de la fenêtre pour améliorer la qualité de l'écoute. Vous étiez en train de faire allusion, le constat qui est fait là où vous êtes à Bandundu, à Missaï, que le réchauffement de la planète a des incidences sur les activités des paysans.
Exactement. Donc, il y a beaucoup d'incidents. Et c'est ce que je vous disais. Par exemple, là, quand je suis rentré, quasiment, ça fait pas longtemps, parce que j'ai vécu dans ces milieux-là, et 10 ans après, quand je reviens, il y a des chenilles qui ont disparu, il y a des champignons qui ont disparu, il y a même des oiseaux qui ont disparu, des espèces d'oiseaux qui ont disparu. Donc, ça a un effet vraiment sur la biodiversité locale, et les variétés qui sont souvent utilisées ne s'adaptent plus bien, quoi. Mmh. Des variétés qui étaient cultivées dans ces écosystèmes ne s'adaptent plus dans ces mêmes milieux, ce qui est très étonnant. Donc, en gros, il y a une incidence visible. J'ai dit visible. Il y a des enfants qui ont 10 ans qui n'ont pas vu les espèces que nous avons vues quand nous étions dans ces milieux-là. Donc, et les températures. Et je me rappelle, je prends l'exemple de la ville de Bandundu. On circulait à pied. Mais à l'ombre, quand vous êtes à l'ombre, même quand il faisait chaud, on ressentait pas cette chaleur. Mais aujourd'hui, que vous soyez à l'ombre ou que vous soyez exposé, il fait extrêmement chaud. Alors, la difficulté qu'on a, c'est que on n'a pas suffisamment des données scientifiques probantes pour orienter les diagnostics. Donc, ça nous manque des données locales au niveau de nos propres écosystèmes. Par exemple, les inventaires de ces espèces qui disparaissent. Et puis, il y a des nouvelles espèces qui n'étaient pas adaptées à nos milieux, qui deviennent plus adaptées à ces milieux-là. Hein, qui deviennent plus adaptées. Donc, il y a beaucoup de réajustements qu'il faut essayer de faire pour permettre à nos populations de devenir de plus en plus résilientes, quoi.
Oui, ça c'est du côté activité agricole. Mais est-ce que les fermiers sont également impactés par ces changements climatiques?
Bien sûr. C'est comme je vous le disais. Aujourd'hui, par exemple, Si je prends l'exemple de Missaï pour être un peu plus concret, nos parents, nos arrière-parents avaient parfois dans un même champ plusieurs variétés. Vous pouvez trouver par exemple de la courge, vous trouvez du manioc, vous trouvez le haricot, vous trouvez plein de trucs. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Vous pouvez pas le faire. Et même les rendements, bon, enfin, je sais que il y a aussi des problèmes de variétés améliorées qu'il faut essayer de toucher dans le cadre de l'accompagnement de ces agriculteurs. Mmh. Mais les rendements ont totalement baissé. Les rendements de nos espaces ont totalement baissé. Si vous allez, par exemple, pour ne parler que des Missaï, à une époque, je me rappelle qu'on arrivait à atteindre 40 à 50 sacs d'arachides par hectare.
Lors de la récolte.
Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Impossible. J'ai posé la question aux mamans. Elles m'ont dit que parfois, ils atteignent même pas 5 sacs à l'hectare. Donc, c'est vraiment des populations qui sont fortement impactées par le changement climatique.
Oui, mais est-ce que au niveau national, qu'est-ce qui doit être fait réellement? Parce que bon, la pluviométrie est déréglée à cause du changement climatique et cela a des incidences sur les activités des fermiers et des producteurs agricoles. Qu'est-ce qui doit être fait réellement au niveau national, professeur?
Bon, les solutions sont proposées et les solutions sont connues. Bon, les gens, ils vont vous dire qu'il faut des pratiques agricoles durables, c'est-à-dire que de plus en plus, il faut tendre vers des systèmes agroécologiques durables où vous faites, par exemple, des arbres fruitiers en même temps que vous faites de l'agriculture de base. Et puis, la gestion de l'eau pose vraiment problème. Moi, je pense que puisque nous avons de l'eau, on doit tendre vers des cultures à contre-saison, par exemple, que de laisser notre agriculture dépendre de la volonté du ciel, quoi. Que ce soit pas forcément la pluie qui vienne arroser les plantations, on peut mettre en place, parce que nous avons de l'eau, malgré qu'il y a le changement climatique, nous avons suffisamment d'eau, mais les fermiers n'utilisent pas l'arrosage en tant que tel, donc ils dépendent vraiment, comme je le disais, de pluie. Mais aussi, il faut les former. Il faut former les gens. Comme vous le savez, dans notre pays, l'agriculture est quasiment tenue par des femmes. Hein. Vous allez dans nos villages, c'est souvent des mamans et qui ne sont pas du tout formées. À l'époque, il y avait des moniteurs agricoles qui passaient de village en village pour essayer de les former. Hein, avec de nouvelles variétés, comment préparer le terrain, comment planter, comment entretenir les champs, comment récolter, etc. Et donc, tout ça manque. Et donc, ça fragilise encore davantage les agriculteurs. Et puis, le gouvernement. Vous avez vu, par exemple, à une époque, il y avait un projet qu'on avait appelé PEJAB. PEJAB, c'est un projet de jeunes, je crois, en agro-business et quelque chose comme ça. En fait, c'était un fonds de garantie que le gouvernement avait mis en place pour accompagner les jeunes. Donc, ça devrait être des initiatives comme ça, mais avec un accompagnement réel. Et pas simplement prendre de l'argent et donner aux jeunes qui ne sont pas formés préalablement à cette activité agricole qui est, comme je le disais, une activité très risquée. Et dans les discussions avec certains jeunes qui ont été accompagnés par ce projet, ils m'ont clairement dit que les banques ne voulaient pas leur donner de l'argent, malgré qu'il y avait une garantie, il y a le fonds de garantie du gouvernement, mais les banques ne donnent pas parce que le montage de l'activité n'est pas bien fait. Et puis bon, tout ça, ça fait que si déjà ceux qui sont accompagnés par le gouvernement n'arrivent pas à améliorer le rendement, etc., a fortiori, nos mamans qui font avec la houe, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes qui demandent une véritable implication du gouvernement pour essayer de rendre plus résilients nos producteurs locaux.
Et en même temps, je rappelle qu'en 2022, lors de la clôture des États généraux, l'ex-premier ministre Samalou Kondé, dans les conclusions, avait promis entre autres la création en fait d'une banque agricole. Ça va aider beaucoup les paysans et fermiers.
Oui, cela s'est réalisé, arrive à se réaliser. C'est bien. On peut créer une banque agricole, mais le problème, c'est le problème de l'activité agricole. Parce que quand un agriculteur va auprès d'une banque, que ce soit une banque agricole ou n'importe quelle banque, il faut que l'agriculteur démontre que son activité est rentable. Alors, vous voyez déjà avec cet impact-là du changement climatique sur les rendements de nos systèmes agro-pastoraux, ça dérange. Parce que, vous savez, Monsieur Tati, je dis toujours que les domaines agricoles sont des domaines à rendement décroissant. Et donc, si vous ne faites pas des efforts, vous voyez là, je vous ai dit tantôt qu'il y a la dégradation de sol. Si aujourd'hui, une maman va vers une banque pour demander un petit financement, on lui donne un financement, mais il faut que l'année d'après, elle soit capable de tenir.
De commencer à rembourser.
De son système de production. Et alors, puisque tous les ans, les rendements ne font que baisser, ça va jeter un froid au niveau des banques. Les banques ne seront pas. Et renseignez-vous pour ce que je disais tantôt, les jeunes qui ont été accompagnés par PEJAP, ils n'ont pas su mobiliser l'argent des banques, malgré le fonds de garantie. Parce que il y a tellement de problèmes que nous n'avons pas complètement cernés qui font que l'exercice de la production agricole devient vraiment difficile.
Un autre souci, un autre bémol, professeur, c'est l'accès aux semences améliorées. On a l'impression sur terrain que les paysans, la majorité recourent aux semences tout venant, et ce sont des semences qui sont déjà dégradées, et ça a des incidences sur les rendements.
Exactement, parce que les semences, vous voyez, dans le système de production agricole, je le disais tantôt lors d'une émission, le premier maillon, c'est le maillon technologie. Dans le maillon technologie, il y a non seulement la production des semences, mais il y a aussi la production des engrais. Il y a aussi la production des pesticides pour lutter contre les nuisibles. Il y a la production des machines agricoles pour accompagner les producteurs. Et donc, ce maillon-là, déjà, n'est pas développé dans notre pays. Et donc, du coup, vous allez voir que un agriculteur, quand il achète des semences, c'est la même semence, une partie de sa production qui est gardée pour être plantée l'année d'après.
La saison prochaine, oui.
Or, il y a une dégénérescence. Il y a une dégénérescence qui est obligatoire. Donc, on doit avoir des institutions de production des semences. On doit avoir ça. On a CNASM, mais il faut accompagner CNASM pour qu'on produise des semences de meilleure qualité. Et puis, en plus de ça, vous voyez, parfois, les gens, ils voyagent, ils arrivent au Gabon, ils arrivent, en Afrique du Sud ou en Europe, ils voient une variété, et puis ils prennent, ils l'amènent. Mais tout ça, ça doit être contrôlé. En amenant comme ça, vous pouvez amener des maladies qui n'existaient pas dans votre milieu.
Et puis,
ça dérange. Et tout ça, il faut une très très bonne réglementation, il faut des très très bonnes lois qui recadrent un tout petit peu le système de production agricole.
Maintenant qu'on va lancer la campagne agricole A, donc parce que là on est déjà presque au mois d'octobre, par le passé c'était déjà à partir de juin qu'on commençait à préparer les sols, et que là maintenant on va lancer ça deux mois après. D'après vous, est-ce que ça va aider les paysans ou les producteurs à avoir des bons rendements?
Bon, je ne répondrai pas à la place du ministère. Je crois que en lançant la campagne pendant cette période, il y a des études qui ont été menées pour que ce soit fait comme ça. Mais si les données, comme je disais, si les données sont telles que c'est difficile maintenant, bon, imaginez, vous demandez à quelqu'un de commencer à préparer le sol maintenant. Il prépare, il plante, et nous parlons du changement climatique, du changement des régimes de précipitations. Imaginons que vous avez semé et que 3 semaines après, il n'y a plus de pluie. Ça devient difficile. Donc, moi, je conseille toujours qu'on commence la préparation du terrain avant, et que les pluies nous trouvent déjà en train d'attendre le semis, quoi. On devrait le faire comme ça.
Et du point de vue sécurité alimentaire, est-ce que si rien n'est fait parce que les communautés, les paysans sont déjà impactés par cette réalité, est-ce que cela aura aussi des incidences sur la sécurité alimentaire?
Mais tout à fait. La sécurité alimentaire, bon, c'est une production en quantité et en qualité. Donc, si on doit parler de sécurité en termes quantitatif et qualitatif. Alors, on va produire des grandes quantités et de meilleures qualités. Mais nous voyons que les rendements baissent. En termes de quantité, on va avoir de problèmes. Donc, nous serons obligés, à un moment donné, d'importer encore du maïs, comme c'était le cas, et puis on va se moquer de nous. Les gens vont commencer à dire, voilà, ils ont des terres arables, bon, ils en parlent tout le temps, mais ils sont incapables de produire.
Quel est l'impact du changement climatique?
Fortement impacté.
Oui, ok. Quel est l'impact du changement climatique sur les activités agropastorales en RDC? Nous en parlons avec les professeurs Jean-Claude Bouanganga. Nous rappelons qu'il est député national, élu des Bandoulouville, ingénieur agronome et puis spécialiste en industrie d'aliments. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique, comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Nous revenons sur le sujet, professeur Jean-Claude. Une autre réalité est que les ménages agricoles ont l'habitude de faire l'agriculture sur brûlis, qui est une pratique qui consiste à brûler des espaces pour préparer les sols destinés à l'activité agricole. Et ça aussi, ça a des incidences, au fait, sur la productivité des activités agricoles en RDC.
Ça a déjà une incidence sur le climat, parce que lorsque vous brûlez, vous produisez du CO2. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse réduire la production du CO2. Mais les agriculteurs, parfois, ils n'ont pas le choix, parce que...
La liaison,
c'est... Ils demandent beaucoup d'énergie.
Oui, il y a des micros coupures, professeur. Déplacez-vous un tout petit peu de là où vous êtes. J'ai dit, si vous êtes dans un local, ouvrez la fenêtre pour améliorer la qualité de l'écoute. Entre-temps, nous allons prendre un auditeur qui appelle depuis la ville de Kinshasa. C'est Maître Omar Kigalo qui revient à nouveau. Maître Omar, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, Monsieur Tati. Bonjour au professeur. Je ne suis pas environnementaliste, mais il est de notoriété scientifique que l'environnement est le cadre de vie, une source de revenus et un respectacle de déchets. Donc, toute personne environnementaliste ou pas est concernée. Voilà pourquoi la loi congolaise dit tout Congolais a droit à un environnement sain. J'ai dit merci au professeur. Avant de poser mes questions, je voudrais quand même répliquer par rapport à ce qu'il a dit. Lorsqu'il a demandé qu'on institue de loi dans ces domaines, il existe déjà, professeur, plusieurs lois. Je cite, il y a les codes forestiers, il y a les codes agricole qui a été voté en 2013, donc principe relatif à l'agriculture. Il y a la loi sur protection de l'environnement. Donc, en tant que député, vous pouvez soit proposer des mesures complémentaires, soit contrôler les ministères concernés pour que l'application se fasse de ces lois. Première question, cher professeur, on parle souvent du réchauffement climatique. Et en environnement, on dit que les dégâts environnementaux soit le fait de l'homme, soit le fait de la nature. Quelles sont les réelles causes du réchauffement climatique et quelles sont les mesures pour en éviter? Deuxième question, vous parlez de l'impact du réchauffement climatique sur l'activité agricole. Qu'en est-il de la vie humaine? Est-ce que, parce que l'agriculture est directement liée à l'homme, quel est l'impact sur la vie humaine? Parce que nous sommes également concernés. Troisième question, professeur, il y a plusieurs écosystèmes environnementaux. Il y a le sol, il y a l'eau, il y a l'air. Alors, lorsqu'il y a le réchauffement climatique, quel est le degré d'atteinte de chaque secteur? Qu'est-ce qui devient le sol? Qu'est-ce qui devient l'eau? Qu'est-ce qui devient l'air? Pour finir, professeur, quels sont les mécanismes que nous devons mettre en pratique, nous d'abord en tant qu'individus? Parce que la loi sur l'environnement responsabilise et l'État et les individus que nous sommes. L'État, sa part, nous avons également la nôtre. En tant que citoyens, dans nos maisons, dans nos avenues, que devons-nous afficher comme comportement face à ces réchauffements climatiques? Dernière question, nous qui vivons dans les villes et non au village, nous avons également des jardins, on a également des activités agricoles. Quel comportement tenir face à ces réchauffements climatiques pour que nos productions agricoles soient meilleures? Voilà, très cher Tati, mes questions, je vous remercie.
Merci beaucoup. Nous rappelons que Maître Omar, vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Honorable, comment répondez-vous aux questions de Maître Omar?
On va les rappeler une à une, si j'oublie, vous allez me rappeler.
Tout à fait.
Alors,
parlons. La réglementation, elle existe déjà d'après Maître Omar. La réglementation, elle existe. Il y a des lois dans le domaine de l'environnement et dans le domaine agricole.
La réglementation, c'est une chose. L'adaptation de la réglementation à la situation réelle, ça n'est une autre. Donc, c'est vrai qu'il y a des lois qui existent. Il a posé une question et il a en même temps donné une réponse. Il faut qu'on puisse travailler techniquement pour adapter nos lois aux conditions changeantes de notre environnement. Notre environnement est en train de changer et nos lois doivent aussi suivre ces changements.
Oui.
Et c'est comme ça que vous allez voir que partout, hein, on fait ces ajustements de lois en fonction des situations réelles. Bon, le réchauffement climatique, je crois qu'il a parlé de l'impact sur l'homme.
Quelles sont d'abord les causes? Quels sont les facteurs qui ont occasionné ou qui occasionnent les réchauffements climatiques?
Non, mais d'abord, le climat en soi... il est changeant par nature. On ne peut pas avoir un climat qui est totalement stable tous les ans. Donc, au fait, nous, à l'échelle de la vie humaine, nous ne pouvons pas nous dire exactement que cette situation qui nous arrive aujourd'hui n'est jamais arrivée sur la Terre. Donc, la Terre existe depuis plusieurs années. Mais à l'échelle de la vie de l'homme, ce que nous sommes en train de voir peut avoir déjà impacté la Terre
vécu
à une
dans
certaine
le
époque.
Passé. Oui, oui.
Alors maintenant, les causes, enfin les gens qui attribuent les causes du changement climatique aux activités anthropiques. Bon, on va vous dire que plus vous produisez du CO2, plus vous produisez du méthane, tous ces gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre. Ça fait que ça s'accumule dans l'atmosphère et que les rayonnements solaires qui devraient repartir nous revient encore sur Terre et ça augmente les températures globales de la Terre. Donc ça c'est ce que l'on attribue à l'homme. Bon, il y a des gens qui sont très sceptiques par rapport à ça. Il y a des gens qui vont vous dire bon ça va changer parce que le climat change toujours. Mais lorsque nous attribuons ça à l'homme, nous devons demander à l'homme. Même si on n'est pas sûr à 100%. Mais les gens qui sont pour cette théorie vont vous dire, réduisez la production des gaz à effet de serre. Plantez des arbres qui vont produire plus d'oxygène. Réduisez des utilisations abusives de la matière organique. Par exemple, aller chercher du charbon qui a été enfoui des milliers d'années et les brûler.
Hein, les déboisements incontrôlés.
De l'énergie propre. Hein, il faut utiliser de l'énergie propre. On va aller vers l'énergie verte, on va éviter d'utiliser les hydrocarbures, etc., etc. Bon, comme je le disais tantôt, à l'échelle de la vie, on ne saura pas dire que si nous le faisons tous, comme c'est écrit, en 5 ans, 10 ans, la température de la planète va baisser. Mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour ne pas aggraver la situation. Ça, c'est ce que nous devons faire. Les causes sont connues et nous devons faire en sorte que, puisque c'est nous qui sommes incriminés, nous, hommes, qui sommes incriminés par nos activités, et que c'est encore nous-mêmes qui sommes impactés, faisons quelque chose pour ne pas accentuer la situation. L'impact sur l'homme, c'est visible quand il fait chaud. vous transpirez beaucoup. Et quand vous transpirez beaucoup, vous êtes déshydraté. Et l'homme, c'est un être qui stabilise sa température. Et donc, vous allez voir qu'il y a des réactions qui peuvent avoir lieu parce que la température est très élevée, qui ne devrait pas avoir lieu si vous êtes si vous n'êtes pas exposé. Et puis ici chez nous, peut-être qu'on le ressent pas. Si vous allez en Europe par exemple, vous allez trouver des amplitudes de changement de température qui sont tellement élevées. Parfois même le même jour, vous vous réveillez le matin, vous êtes à 1 degré et quelques temps après il pleut. Et puis à midi, il fait 25. Vous voyez l'écart entre 1 degré et 25 degrés, c'est que ça peut faire sur le corps qui va sans doute réaliser beaucoup d'efforts pour maintenir sa température à 37. Donc l'homme est impacté fortement avec le changement climatique. Et l'eau, ben on vous a dit que le niveau de nos océans commence à augmenter parce qu'il y a la fonte de la glace au niveau des pôles, etc. Et vous savez, quand les niveaux des océans augmentent, ça veut dire que la température va faire vaporiser de l'eau, et puis il y aura beaucoup de pluies, et puis il y aura beaucoup de tempêtes. Donc, l'écosystème en général est impacté par le changement des températures. Je ne saurais pas donner tout le contour parce que, bon, les... Dans le monde des experts,
un exemple concret, par exemple,
il y a beaucoup d'écoles.
Oui.
Dans le monde d'experts, il y a beaucoup d'écoles.
Mm.
Donc, ce que moi je dois retenir par rapport à ces changements climatiques, c'est qu'il y a augmentation des températures. Ceux qui attribuent ça à l'homme demandent à l'homme de fournir des efforts. Bon, il y a des gens qui pensent que c'est comme ça. Bon, mais faisons des efforts à notre niveau. Il a parlé des jardins. C'est très bien, il faut déjà pas produire beaucoup de déchets, il faut savoir créer un écosystème qui produise suffisamment d'oxygène, parce que vous savez que les plantes ont l'avantage de consommer le CO2 et de nous produire de l'oxygène. Plus nous réduisons la quantité d'oxygène, mieux nous créons notre environnement. Donc tout ça, c'est aussi en prendre en compte. Je ne sais pas si j'ai... Parce que parfois il y a des coupures, je ne sais pas si j'ai bien suivi ces questions, et
oui,
si vous, j'ai
vous
quand
avez...
même essayé de répondre.
Tout à fait, tout à fait. Il y a un aspect qui me manquait parce qu'il a voulu également savoir si ces changements climatiques impactent également les sols, l'eau et l'air.
Mais bien sûr. Mais j'ai dit par rapport au sol, par exemple. Lorsqu'il pleut beaucoup, le sol se dégrade, il y a des érosions.
Oui.
Et le sol, c'est lessive aussi.
Exactement.
La matière organique va être lessivée.
Oui. Mais je vois par exemple la rivière Kwilu, professeur, à Kikwit, par exemple, qui est victime d'ensablement parce que à cause de précipitations et puis il y a des ravinements et les lits de la rivière au niveau du pont là, au niveau de la ville, est presque ensablé.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que par rapport à l'environnement, il y a beaucoup de choses. Vous allez voir, par exemple, que il y a des nuisibles, beaucoup de nuisibles. Hein? Il y a beaucoup de nuisibles maintenant. Mais il y a beaucoup de maladies qui n'existaient pas, même des maladies des plantes qui n'existaient pas, qui vont apparaître, même pour les animaux. Et comme vous savez, l'eau, quand l'eau circule avec tout, quoi. L'eau a même et tout, surtout que les canalisations des eaux ne sont pas faites correctement. Ça peut amener, si vous prenez l'exemple de Kinshasa, moi j'ai même vu un collecteur de sanitaires qui est branché directement sur les caniveaux. Donc tout ça, mais l'eau, qu'est-ce que l'eau va faire en passant? L'eau va charrier tout ça. Hein? L'eau va charrier tout ça. Si vous voyez notre rivière Kalamu à Kinshasa, hein? L'eau charrie, même les bouteilles. Bon, on va dire qu'on jette les bouteilles, oui, mais c'est l'eau. Parce que quand il pleut beaucoup, que l'eau n'est pas canalisée correctement, l'eau va charrier tout ce qu'elle trouve au passage. Donc, il y a beaucoup de conséquences par rapport au changement climatique. J'ai pas besoin d'être très, très classique pour les énumérer de façon exhaustive, quoi.
on est en plein pied du changement climatique. Quelles sont les attitudes ou les précautions que les paysans, les producteurs agricoles et les fermiers doivent prendre parce qu'ils sont appelés à être résilients face à ces phénomènes?
Mais ça veut dire que, vous voyez, Monsieur Tati, nous en parlons de manière classique, mais on ne vit pas ça de manière classique. C'est-à-dire que nos paysans ne vivent pas le changement climatique de la même manière. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez les maraîchers, par exemple, vous allez voir, vous avez des maraîchers qui font leur maraîchage à côté des points d'eau. Mmh. Alors, ils vont pas être impactés de la même manière que quelqu'un qui fait un champ de piment en savane.
Loin d'un cours d'eau.
Vous comprenez? Donc, les accompagnements des agriculteurs doivent être ciblés en fonction de leur situation. Donc, on ne peut pas donner une solution globale à tous les agriculteurs de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut traiter le problème au cas par cas. Moi, je travaille ici sur un terrain marécageux. Et depuis un certain temps, mon terrain est devenu très sec. Moi, ça m'arrange. Il y a le changement climatique, mais qui m'arrange? Parce que mon terrain, avant, il était marécageux. Mais maintenant, je sais le travailler sans problème.
Oui, mais là, dans ce cas-là, ça peut aller.
Par rapport au changement climatique.
Oui, mais dans ce cas-là, professeur, ça peut aller pour des cultures maraîchères. Mais s'il faut faire la culture des rentes ou pérennes, parfois c'est compliqué sur un terrain sec.
C'est ce que je dis. Donc, les solutions pour les agriculteurs doivent être données au cas par cas. On ne peut pas donner une solution magique à tous les agriculteurs de la République démocratique du Congo. Non. Et ceux qui sont à Goma, par exemple, ils sont pas impactés de la même manière que ceux qui sont
à l'ouest du pays, à Bumba, oui, ou au centre du pays.
Ils sont pas impactés de la même manière. C'est comme ça qu'il faut faire un zoning pour les agriculteurs pour étudier leurs problèmes au cas par cas et proposer des solutions idoines. Hein. Donc, si vous demandez aujourd'hui que je vous donne une solution pour Bumba, je vous mentirai quoi. Il faut étudier la situation sur terrain et voir, par exemple, le degré de dégradation des sols, des montagnes. C'est pas le même degré de dégradation de sols, de plateaux. C'est pas la même chose.
Vous qui professeur, vous qui êtes à Bandundouville, par exemple, est-ce que pouvez-vous nous faire une idée sur l'incidence qu'a le changement climatique sur les activités des paysans, des petits producteurs au niveau de la ville de Bandundu?
Bon, pas au niveau de la ville de Bandundu. Au niveau de la ville de Bandundu, il y a des tout petits champs. C'est pas des gens qui font vraiment de l'agriculture intense. Mais au niveau de l'Interland, au niveau de l'Interland de Bandundu, bien sûr que les agriculteurs sont impactés. Il y a par exemple, à l'époque, quand on préparait le terrain, un terrain de savane, une fois que c'est fait, la première année, la deuxième année, la préparation du terrain est plus facile. Mais vous allez voir que maintenant, par exemple, il y a des arbustes qui poussent tellement vite sur des terrains de savane qui compliquent le travail du sol par les agriculteurs. Mmh. Hein? Et donc, parfois, celui qui pensait que l'année d'après, il va utiliser très peu de moyens pour préparer son sol, se voit confronté à un travail du sol encore plus rude. Mmh. Hein? Et il y a des arbustes qui n'existaient pas dans nos milieux et qui ont apparu comme ça et qui ont colonisé des espaces agricoles.
Des plantes envahissantes.
Qui ont colonisé des espaces. Oui, oui. Qui colonisent les domaines agricoles. Bon. Et puis, à Bandundouville, comme on est sur un plateau, même au niveau du plateau de Bateke, ça ne dérange pas. Ce qui dérange plus, c'est le régime de pluie. Le régime de pluie. Et puis, l'acidification. Mais pas de façon très intense, parce que dans le plateau, par exemple, on est sur un sol à tendance un peu plus argileux. Et donc, les infiltrations, le lessivage n'est pas très intense que sur un sol sablonneux. Mais si vous allez ici, par exemple, à Bandundouville, vous avancez vers le 80 km, vers un village qu'on appelle Makoumakou, vous allez trouver un terrain qui est totalement sablonneux. Donc, quand il pleut beaucoup, toute la matière organique part avec l'eau. Vous voyez que c'est pas du tout le même problème, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est pas du tout les mêmes problèmes. Mais maintenant, au niveau étatique, qu'est-ce qui doit être fait en termes de veille d'informations liées à la météorologie, liées aux maladies qui affectent les végétaux? Il y a également des fermiers, les éleveurs du bétail qui sont également impactés par les changements climatiques, professeur.
Oui, bien sûr. Ça dit que au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, ça doit être un travail qui doit être fait par plusieurs ministères au même moment. C'est pas seulement au ministre de l'Agriculture de s'attaquer à ce problème. Même le ministère de l'Environnement aussi. Mmh. C'est ce que je vous ai dit. La difficulté qu'on a à décider des stratégies à mettre en place au niveau du pays, c'est l'absence des données scientifiques probantes. Vous voyez, moi je vous parle de perturbations, de pluies, etc. Mais ça, c'est ce qui est connu au niveau global. Ça, c'est ce qui est connu au niveau mondial. Ce n'est pas la situation réelle de la RDC. Alors, si vous allez, je vous ai parlé de Misaï, mais si vous me demandez quelle est la quantité d'eau qui tombe là-bas, on ne sait pas. On ne sait pas.
Oui,
quelle est la vitesse du vent par période, on ne sait pas. Hein, et quelles sont les fluctuations des températures dans... Alors, la première des choses, c'est de prendre des données.
Miser sur les recherches.
Il faut prendre suffisant. Pardon?
Miser sur la recherche, la documentation, avoir des données réelles des terrains.
Bien sûr. Moi, je dis toujours que nous, agronomes, nous sommes formés pour être factuels. On doit parler des faits et des chiffres. Ça veut dire que le diagnostic d'un système de production agricole ne peut pas être basé sur des données globales. Lorsque vous faites ça, vous vous trompez. Il faut être factuel. Il faut parler des faits et des chiffres. Hein? Mmh. Et c'est comme ça qu'on peut trouver des solutions qui sont adaptées à l'amélioration de la situation des producteurs.
Mais il y a quand même
le gouvernement.
Oui, mais prof, il y a quand même des études parcellisées des facultés des sciences agronomiques du pays qui font ces travaux là.
Non, mais à l'époque, hein, moi je me rappelle quand on était petit, à l'époque il y avait ce qu'on appelait des moniteurs agricoles. Ces moniteurs agricoles passaient dans tous les villages pour accompagner. Et l'avantage, c'est que l'expérience des agriculteurs, accompagnée par l'œil de l'expert, hein, ça vous permet d'avoir des données scientifiques probantes. Et quand ça revient, il y avait un autre service qui existe encore, je crois, le SNV, le Service National de Vulgarisation. Maintenant, le nouveau calendrier doit être vulgarisé au niveau des agriculteurs en leur expliquant pourquoi nous vous demandons de commencer le labour pendant telle période au lieu de telle période.
Et il reste à savoir, professeur, si ces calendriers sont élaborés, ces nouveaux calendriers, est-ce qu'ils existent?
Ah, vous me posez la question. Bon, le calendrier existe, mais c'est ce que j'ai dit, le calendrier existe, mais il faut l'adapter au fur et à mesure.
Non, je parle du calendrier réaménagé. Je parle du calendrier réaménagé, professeur.
Oui, bon, ça existe, c'est comme ça qu'on lance la campagne. Il faut pas me pousser à dire des choses que je ne voudrais pas dire, monsieur Tati. Donc, moi, j'ai dit ceci, l'agriculture est une activité qui n'est pas, mécanique. Ça va? Donc, un agriculteur, c'est quelqu'un qui s'adapte à son environnement. Donc, vous avez d'un côté l'environnement et vous avez de l'autre côté la plante que vous placez dans un environnement donné. Et la plante, quand vous la placez dans cet environnement, vous avez besoin qu'elle vous donne un rendement. Et donc, vous devez à tout moment faire ces réglages-là. Hein? C'est comme ça que vous allez voir chez nous, nous allons vous dire, ah oui, il y a perte de fertilité, mais on peut corriger la fertilité.
Oui.
Hein, il y a problème de température. Ah, on peut commencer par des serres. On crée un microclimat, le temps que les plantes s'adaptent. Après, on le remet dans l'environnement où il y a plus de fluctuations. Et donc, l'agriculteur, il fait ça. Il essaye d'ajuster. Je parle pas de l'agriculteur, de ma pauvre mère qui fait l'agriculture au village. Mais voilà, donc il faut que le gouvernement puisse mettre en place des mécanismes d'accompagnement.
Donc,
des mécanismes
avoir...
d'accompagnement. Je me rappelle à une époque,
avoir des
à
données
une époque
pour...
on avait introduit une nouvelle variété d'arachide qu'on appelait le
Kassai.
Le JL,
non,
JL
Kassai, c'est le maïs.
Tout ça.
Ouais.
Non, ça c'est vieux, ça. Ça c'est vieux. Et donc, à cette époque-là, la première année, il y avait des très très bons rendements. Et puis, la deuxième année aussi. Mais la troisième année, il n'y avait plus de rendement. Or, les gens qui ont donné les semences la première année ont disparu la troisième année. Donc, vous voyez qu'on a introduit une variété dans un milieu, mais on ne suit pas la variété en question. Et donc, les paysans, ils sont perdus. Et donc, les études doivent être faites justement pour voir quelles sont les variétés qui sont plus résistantes aux nouvelles conditions du climat. C'est ça le travail qui doit être fait au niveau central.
Et je pense que c'est l'INERA qui a cette vocation au niveau national. L'INERA a des centres un peu partout à travers les pays. Et puis donc, il y a des données probantes également, accompagner les paysans, les producteurs par les biais du Service national de vulgarisation. C'est ça, oui, SNV.
Oui. Oui, mais ça veut dire que quand l'INERA fait ses recherches au niveau de centres, etc., ça aide à avoir des données. Mais il faut, les données agricoles, c'est comme je vous ai dit, les données agricoles, on les adapte. Et c'est comme ça qu'à l'époque, il y avait aussi des champs d'application. Vous voyez? On fait des recherches à Yangambi, par exemple. On fait des recherches là-bas. Il dit, bon, écoutez, nous allons faire des tests de ces recherches à Bandounouville pour voir quelle est la variété qui va s'adapter aux conditions
au
de Bandounouville.
Voilà.
Donc, alors, on vient, on fait un champ expérimental, et puis voilà, on teste. C'est comme ça qu'à l'époque, on savait que si vous voulez faire de la canne à sucre, il faut aller à tel endroit, parce que les études ont montré que dans ces conditions-là, on peut avoir de bons rangs. Sinon, le sol de la RDC ne sont pas monotones. Les sols ne sont pas monotones. Donc, et même les microclimats aussi ne sont pas monotones. La biologie de nos sols n'est pas non plus monotone. Donc, tout ça, l'impact va être différent. Quand on parle d'impact, bon, l'impact, c'est l'impact au vrai sens du mot. Si je jette une pierre sur un mur en béton, ça va pas avoir le même impact si je jette sur un mur en bois.
Oui, oui.
Donc, vous comprenez que voilà, quand on parle des impacts, tout ce que je vous ai dit là, c'est tout ce que vous allez trouver dans tous les livres de l'environnement. Ils vont vous dire il y a ceci, il y a cela. Là, c'est très bien.
Oui.
Ça c'est. Moi j'ai dit toujours que chaque fois qu'on écrit quelque chose dans un livre, elle perd de sa valeur. Parfois, il faut voir des situations réelles de terrain.
Et il faudrait également à travers les pays, professeurs, encourager des programmes de reboisement.
Ben oui, mais bon, déjà que notre pays est vert, hein. Circuler la République par avion, vous allez voir le reboisement. Oui, c'est bien, mais moi, j'ai jamais été pour le reboisement des fruitiers. Non, nous avons déjà un pays qui est vert.
Oui, dans les zones périurbaines, ça vaut la peine.
Donc on peut s'orienter vers des pratiques. Pardon?
Je dis dans les zones périurbaines, par exemple, parce qu'il y a la demande de charbon de bois dans les grandes villes, ce qui fait que cette forte demande a des incidences sur les forêts qui sont déjà en lambeaux.
Oui, mais bon, il y a des pratiques qu'on peut encourager. Au lieu, par exemple, de faire. Moi, je vous ai dit qu'il y a des variétés de chenilles, par exemple, qui ont disparu. Si on veut faire, par exemple, comment on appelle ça encore, le mot m'échappe. Mais si on veut combiner des arbres et des autres cultures, on peut s'orienter vers les essences forestières qui sont utiles.
Oui.
pour rendre nos forêts plus vivantes. Hein, nous avons nos variétés à nous qui produisent des chenilles, qui produisent des champignons, etc., etc., qu'il faut mettre dans ces systèmes agro-pastoral. Et on ne peut pas toujours faire, par exemple, un modèle que je conteste beaucoup, acacia manioc. Non, on n'en a pas besoin, quoi.
Oui, mais pas besoin. Mais est-ce que vous connaissez un projet où on a développé uniquement les essences locales ici en RDC qui a marché?
Non, non, mais je sais que à Kisangani, il y a une collègue qui m'a dit qu'on avait planté les arbres qui produisent des chenilles et ils ont déjà commencé à récolter les chenilles. Hein. Ah, donc... Mais ça encore, c'est notre boulot de faire ces études-là pour les reproduire, ces plantes. Ce sont des plantes. Il suffit de les mettre dans les meilleures conditions. Ces plantes vont pousser.
En conclusion, donc, il faut tabler sur les recherches, avoir des données probantes pour accompagner les paysans dans le cadre, parce qu'en cette période de changement climatique, également sensibiliser les communautés par les billets de monétaires agricoles pour qu'ils puissent être à jour concernant le changement climatique qui est en train d'impacter, au fait, les activités de ces paysans.
Ah ouais. Donc vraiment pour donner une réponse exacte, plus ou moins exacte à la situation de nos agriculteurs, on doit avoir suffisamment de données de leur milieu de production et essayer de les adapter aux conditions actuelles du climat. On doit leur donner des semences, bien sûr, mais on doit les accompagner aussi. Hein, pas leur donner des semences et après disparaître le jour d'après. Et puis, cette histoire de banque agricole, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Mais il faut un accompagnement préalable pour que nous n'ayons pas de conflit entre nos producteurs et les banques. Les banques ne sont pas des enfants de cœur. On donne pas de l'argent, même si on vous dit que c'est une banque agricole, mais c'est une banque quand même. Mmh. Hein? L'État va donner des garanties, mais il faut que l'activité puisse être rentable. Si l'activité n'est pas rentable, les efforts de l'État seront vains, quoi.
Merci beaucoup, professeur Jean-Claude Bonganga. Nous rappelons que vous êtes ingénieur agronome, spécialiste en industrie d'aliments et député national élu de Bandundouville. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Excellente journée à Bandundouville.
Merci beaucoup de l'invitation, même si c'était improvisé. Merci.
Au revoir, à la prochaine occasion. Merci, merci beaucoup. C'est par ici que s'achève ce numéro d'Okapi Service que vous a présenté et coordonné Tati Mapoukou. Jody Kachama était à la réalisation et Paul Badianyama s'est occupé de la prise de son. Excellente journée. Les rendez-vous sont pris pour le jeudi pour un nouveau numéro d'Okapi Service.